OK, je vais y aller avec le jeu de mots, Pierre-Yves, l'affaire et ketchup.
Ah, t'es allé là, toi?
Hey, ben
je suis
oui.
content. Tu sais que Patrick, le ketchup, dans le fond, quand on y pense, là, c'est un enjeu marketing. On nous a mis dans la tête que de garrocher du sucre liquide mélangé avec du vinaigre puis des tomates écrasées, on voulait ça partout. Hein, les enfants demandent du ketchup parce qu'on travaille leur imaginaire. Et là, au Québec, on va se mettre à produire du ketchup Heinz parce que Kraft Heinz Canada annonce un investissement, évidemment avec un petit prêt de 2 millions du gouvernement. Mais Patrick, il y a quelque chose derrière ça.
Quoi?
Qui est beaucoup plus stratégique. Un, quand Heinz a quitté le Canada en 2014 au niveau de la production du ketchup, pensait évidemment à rationaliser les coûts, centraliser la production et puis que le consommateur allait rien dire. Mais French, le concurrent, a dit « Attends une minute, là, nous autres, on a compris, on va aller produire du ketchup au Canada, on va dire que c'est du ketchup canadien, puis en plus, on va dire que les Heinz sont méchants, ils ne produisent pas de ketchup canadien implicitement. » Et donc, il y a eu ça. Puis en 2018, après ça, il y a eu la guerre commerciale entre Trump et tout le monde, et dont le Canada, et Trump a dit imposer des tarifs douaniers. Et de l'autre bord, le Canada, Justin Trudeau, s'est reviré sur ce qu'il pouvait taxer, tu comprends? Alors, le ketchup. Et donc, Heinz se retrouvait avec deux prises. Quelque chose qu'il n'avait jamais vécu, c'est-à-dire un délaissement des consommateurs pour d'autres marques pour des raisons nationalistes, et en plus, une augmentation des coûts pour le consommateur à cause de la tarification douanière. Et donc, Heinz, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se couvrir contre ces deux risques-là. C'est de revenir au Canada et dire « Nous produisons au Canada du ketchup. » Et vous êtes content d'en avoir. D'ailleurs, Patrick, le ketchup, c'est Heinz, c'est la même stratégie que Coke puis Pepsi. C'est-à-dire que dès ton jeune âge, on dit « Un, t'es supposé d'aimer ça. Deux, faut que t'en mettes partout. » Et trois, faut que tu prennes du Heinz. Puis si c'est pas du Heinz, c'est pas du vrai ketchup. Alors, quand on y pense, c'est très de base comme recette. Et juste.
Y a-t-il une différence de goût entre le French puis le Heinz?
T'as jamais testé ça?
Écoute, dans tout ce que j'ai testé dans ma vie, mon vieux, là, non, je me suis
non,
pas rendu là.
T'es resté sur Heinz. Donc, là, Patrick, je t'invite à ouvrir tes papilles gustatives parce que justement, depuis cette saga, il y a eu d'autres compagnies qui sont entrées un peu plus de luxe. Tu sais, par exemple, il y a le ketchup du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Canada.
Qui est excellent.
Canada Sauce. Donc, qui est un peu plus, disons, qui va faire plaisir aux gens qui veulent du local et un peu plus cher. Il y a aussi Joe Beef qui en fait Barbecue Québec. Donc, le ketchup, c'est un... Tu gagnes l'habitude par ton réseau de distribution. Heinz met ça partout dans les épiceries, achète l'espace tablette, gagne cette guerre-là. Et là, tu as des produits parallèles qui viennent se différencier. Et ketchup veut garder sa part de marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une annonce. C'est pas parce qu'on aime tant que ça produire ici. C'est sûr que c'est moins cher à cause de l'or canadien par rapport au dollar américain. Mais il y a ça derrière aussi.
Puis toi, ton ketchup préféré, c'est lequel?
Mon ketchup préféré, c'est celui de ma mère. C'est le ketchup maison que tu mets sur le pâté chinois. Tu sais, celui, là, le ketchup aux fruits.
OK, avec des légumes, comme des légumes, morceaux de légumes. Oui, c'est pas la même chose. Ça.
Non, mais sinon, j'avoue que j'ai quitté Heinz par idéologie pour tenter d'aider, puis j'encourage toutes les marques locales. Oui, je fais ça. Et
Attends. Fait que tu as choisi de payer plus cher.
En fait, Patrick, il y a une question de matérialité. En comptabilité, il y a une affaire qui s'appelle le significatif, c'est-à-dire l'importance relative. Et le 30 cents, le 50 cents, la pièce de plus que tu payes sur ton ketchup sur 6 mois, c'est non matériel dans ton budget. Alors, c'est pas grave à ce niveau-là.
OK, parle-moi des erreurs qu'on fait quand on négocie notre salaire.
C'est beaucoup un enjeu dont on me parle souvent. Le premier, c'est de ne pas connaître sa valeur. Les gens s'en vont négocier un salaire ou se faire offrir un salaire, puis ils n'ont aucune idée de la valeur de l'emploi. La valeur de l'emploi à l'externe, à l'interne même avec les autres employés. Donc, quand vous n'êtes pas dans une convention collective, vous êtes dans le marché privé, faut discuter avec vos collègues. Puis, il y en a qui sont fermés à donner l'information. Faut quand même discuter tranquillement, y aller tranquillement, pas vite, un jour à la fois, obtenir des informations pour gagner une valeur. Deuxième point, ne pas oublier de négocier à l'entrée en poste.
Mais il y a des entreprises, tu le sais, qui interdisent qu'on parle du salaire. Là.
Oui,
c'est confidentiel. Là.
Tu sais que Patrick, tu sais ce qui est un secret? C'est quelque chose qu'on te répète une personne à la fois. Deuxième chose, ne pas négocier à l'entrée en poste. Il y a beaucoup de réalités. Tu arrives à un poste, par exemple, on t'offre 45 000. Tu dis oui, mais tu dis, je voulais avoir 50, c'est pas grave, je serai augmenté plus tard. Et après ça, ça devient la base de référence. Et dans un budget comptable, quand l'entreprise augmente les salaires, elle applique un pourcentage selon une courbe normale et des résultats à partir du salaire duquel tu commences. Et donc, si tu ne réussis pas à négocier ce qu'on appelle un rattrapage salarial qui est extrêmement difficile, tu vas être pris pour changer d'entreprise pour faire valoir ta valeur. Troisième point, si tu menaces de partir, fais pas l'erreur de ne pas avoir le goût de partir. Parce que si tu dis à ton boss, si tu ne m'augmentes pas, je m'en vais, puis qui dit « ben c'est beau, tu peux t'en aller », tu viens de comprendre que tu ne vaux pas cher à ses yeux. Et donc, si quelqu'un est prêt à te remplacer, que ta job est convoitée, c'est peut-être pas une bonne idée. L'autre point, change d'employeur dans ta vie à un moment donné. Il faut changer d'employeur à un moment donné, à moins que tu sois dans une convention collective définie, pour qu'un jour, tu sois vu avec des yeux extérieurs. Le gazon est toujours plus vert dans la cour du voisin. C'est la même chose pour les entreprises. À l'intérieur, on te voit tout le temps comme où on t'a connu, c'est-à-dire à la base de l'échelle, en bas de l'échelle. Et à un moment donné, il faut que tu voles de tes propres ailes pour montrer que tu vaux plus cher ailleurs. Et l'autre point, c'est ne pas créer de valeur. Si tu vois ta job comme un horaire, c'est-à-dire du 9 à 5, d'attendre que la cloche sonne pour t'en aller, puis que tu ne développes pas de valeur à l'interne, puis quand tu t'en vas en vacances, les gens sont contents, quand il n'y a pas de concurrent qui vient te chercher, quand il n'y a aucune offre d'augmentation ou de promotion, il ne faut pas que tu te surprennes que ta capacité de négociation ne soit pas grande, parce que le premier réflexe de ton employeur, c'est de se dire, OK, s'il s'en va, il s'en va haut. S'il ne réussit pas à donner une réponse, il sait qu'il n'est pas obligé de t'augmenter. C'est pas que votre employeur ne vous aime pas, ne vous respecte pas ou qu'il est méchant. C'est une question de budget. Et quand il est incapable de voir que vous avez une valeur ailleurs et que vous n'êtes pas capable de lui montrer, bien, il va se dire, ouais, il va chialer un peu, mais il va rester pareil. Alors, c'est la triste réalité de la négociation salariale.
À demain, Pierre.
Salut.